Radio, ni de la télé. C'est le stream avec Yann Terrieux.
Internet, épisode 756 du stream. J'aimerais saluer ceux qui nous écoutent en balado diffusion. Vous êtes des milliers, vous êtes des millions. Merci de me suivre, merci de m'écouter, merci de me soutenir. Commencez ça avec du Steve Miller Band. Bon matin tout le monde, bon matin. Vendredi, on est-tu vendredi? Ouais, on est vendredi. Vendredi 30 vendredi 30 juillet. Vendredi 30 juillet 2021. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Faut faire au moins 5 minutes, hein? Faut faire au moins 5 minutes, conseil de gagnant. Moi, aujourd'hui, c'est tranquille, ça va rester tranquille. Je vais faire. J'ai le goût de peindre aujourd'hui. On va recommencer par le début. J'étais allé faire un show d'humour à Québec. Je vais vous en reparler un petit peu plus en détail. Mais reste que ma mère est venue garder ma fille, cette, ma plus jeune, tu sais. Elle est sur le bord de... Je suis sur le bord de pouvoir la laisser seule, mais il me semble que 15 ans, c'est jeune. Elle voulait absolument rester seule, mais je trouvais ça jeune. Fait que j'ai demandé à ma mère de venir ici. Tu sais, juste... C'est pas qu'elle a du trouble, elle reste dans sa chambre et elle est tranquille, là. Mais je voulais quand même que ma mère vienne ici. Fait que... Elle est venue passer la nuit puis pour garder ma plus jeune, puis elle a fait un hostie de grand ménage. Ma mère, là, tabarnak, elle est efficace. Ma mère et ses sœurs, là, tu sais, ils ont fait des ménages dans, admettons, dans des caisses populaires, des trucs de même, là. Chris, que son sacoche sur le ménage, quand ça rentre quelque part, là, ça te décrotte une maison, un appartement, comme tu t'as pas idée, là, tu sais, là. Puis je suis rentré chez nous à Stiffy, c'était spick and span. Fait que là, vu que c'est, tu sais, vu que c'est tout rangé puis c'est tout propre chez nous, ben j'ai pas ça à faire. Yeah! Win! J'avais déjà commencé un ménage, mais elle l'a fini, puis elle l'a fini comme faut, là, tu sais, là. Ah ben voilà, fait que je vais probablement faire, je sais pas, j'ai le goût de peindre, puis j'ai le goût de, ou peut-être même une petite musique, je vais peut-être faire une petite compo sur Twitch, m'amuser un petit peu de création, ça fait longtemps on dirait, la seule affaire, mon seul exutoire de création, c'est ce podcast, et ça ne me suffit plus, non, ça m'en prend plus là. Ça m'en prend plus, j'ai le goût de créer. Voilà. J'ai le goût de créer. Je regarde mon Instagram, puis là, j'ai le goût de recommencer à peindre. Mais c'est ça. Tu sais, quand je peins, ben, si je mets tout à l'envers, il faut tout que je sorte. Ça prend une demi-heure. Puis après ça, il faut tout que je nettoie. Puis ça prend une autre demi-heure. Puis. Oh! Peut-être juste une petite aquarelle. Ça, c'est pas de trouble, ça. Ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes s'installer, 5 minutes tout ranger. Ouais, peut-être une petite aquarelle. Voilà. Sinon, oui, je suis allé... Ah, tabarnak, c'était trippant. Hostie que c'était trippant. Yeah! Win! Je suis allé... Faf m'a invité sur sa soirée. Puis, c'était une soirée un peu différente. C'était une soirée headline. Il a commencé à faire ça, des soirées headline... Puis, c'était Jer le headliner. Headliner, ça veut dire que t'as des... Admettons, comme lui, la manière qu'il avait setupé ça, il y avait 2-3 open micers au début. Après ça, il y avait moi qui faisais un 10-15. Il y avait Marc qui faisait un 10-15. Puis après ça, il y avait Jer qui faisait une demi-heure. Trois quarts d'heure, je pense. Fait que Headliner, c'est comme... C'est pas un show complet d'un humoriste, mais c'est lui qui fait... Qui est le feature, tu sais. Qui est le feature, puis il fait au moins une demi-heure, genre. Ah ben voilà. Fait que je t'ai invité à faire la première partie de Jer, encore une fois. Puis là, j'ai décidé d'essayer du nouveau matériel. Mais c'était... Ben, pas du nouveau matériel. En fait, j'ai combiné... J'ai combiné du matériel de mon espèce de numéro un peu poche du MeToo, puis mon espèce de numéro un peu poche de l'éveil à la sexualité. Puis j'ai pris les meilleurs jokes de ça, puis j'ai ben ben gros improvisé sur le stage. Puis j'ai trippé au bout, là. Asti que c'était le fun. Ça a bien marché, là. Tu sais, moi, je faisais un 10-15 à peu près. La première partie, je vais faire 3-4 jokes. Puis après ça, je ferai mon affaire de jardin. En fin de compte, j'ai fait un 7-8 minutes, je pense, avec ces jokes-là. Puis ben du crowdwork aussi. Ben du crowdwork. Puis ça donnait bien parce que le crowdwork était enrichissant dans mon cas. Il me lançait des affaires, puis j'étais assez vite pour faire des jokes avec ce qu'il me lançait. J'aime ça du crowdwork. Quand c'est pas méchant, là. Tu sais, quand c'est du crowd work de gars maladroit, ça me dérange plus ou moins, tu sais. Je joue avec ça, puis ça me faudrait pas qu'il y en ait trop, là, tu sais. Mais ça me dérange pas, ça me déstabilise moins, admettons. Ça me déstabilise moins que du monde qui parle entre eux autres. Ça me déstabilise. Mais des hecklers, ça me dérange pas ben. Fait que c'est ça, j'ai fait du crowd work, puis j'ai fait un espèce de combiné de ces numéros-là avec ben de l'improvisation. Je suis allé ben tranquillement, puis j'ai juste, je pensais à mon affaire, ok, quel joke je mets là, c'était tellement improvisé là, ça avait pas de bon sens. J'étais tellement nerveux, j'ai fait comme, je suis juste pas préparé, puis en fin de compte, ça a donné ma meilleure performance, je pense, à vie. Pour vrai là. Pour vrai, là, ça a bien fonctionné. Je sais pas si c'était une luck du débutant, tu sais. Mais je vais réessayer ça. Là. J'ai essayé de. C'est ça qui est plate, j'ai pas filmé. Ça me tentait pas, je voulais vivre le moment présent. Je voulais pas me badrer d'un micro-cravate. Je voulais pas me badrer d'une caméra. Je voulais juste vivre le moment présent. Puis en fin de compte, ça aurait été le numéro dont j'aurais eu le plus besoin des enregistrements parce que j'ai tellement improvisé. Puis j'ai des improvisations qui ont fonctionné là, comme une tonne de briques. C'était vraiment fantastique. Après ça, j'ai fait mon numéro de jardin. Puis le numéro de jardin, lui, il a pas pogné. Yeah! Win! Bon, c'est rendu comme une joke. On dirait que je vais continuer de le faire jusqu'à temps que ça devienne comme ma signature. Oh non, pas lui avec son hostie numéro de jardin. Jusqu'à temps que ça devienne une inside joke, mais avec tout le monde. Hey, fait que j'ai trippé au bout. Puis ça m'a fait du bien, là. Puis ça m'a fait. Ça m'a fait me dire: OK, Colin, je suis capable. C'est pas juste de la pitié, là. C'est pas juste de la pitié. J'ai été capable, là, ce coup-là. C'était pas juste des rires de pitié, puis des rires de: ah, c'est cool, là, si le petit réalisateur de Mike Ward est capable de faire des jokes. Voilà. Fait que, oh, puis j'ai trippé. J'étais avec Marc, on est monté, moi puis Marc. Jerry est venu nous rejoindre parce qu'il faisait, il faisait un WhatsApp, il enregistrait un WhatsApp, fait que il pouvait juste s'en venir plus tard. Il est venu nous rejoindre. Après ça, c'est ça, on a fait nos numéros, tout le monde était bien content, la crowd était fantastique. Tout le monde était de bonne humeur, ça faisait du bien voir du monde. On a jasé un petit peu. Après le show, puis après ça, j'avais écrit à Mike, parce que je savais que Mike était à Québec. Il se faisait roaster, lui, pour le Comédia. Puis j'ai dit: hey, si jamais vous allez quelque part veiller, dites-nous-les, puis on va peut-être aller vous rejoindre. On est à Québec, nous autres aussi, puis on irait peut-être vous rejoindre. Fait que il m'a tout de suite répondu, il a dit: ouais, on va être à telle place, tu viendras nous rejoindre, tu sais. Fait que... J'ai fait la show, puis là, enfin, je voulais absolument, j'ai fait comme: ah, Sophie, je me sens comme un gars qui a le goût de sortir, je me sens comme un gars qui a le goût de fêter. Puis c'est un peu mes vacances, si on veut, tu sais, j'aime ça, tu sais, voir mes chums, puis faire du social. Fait que j'ai fait comme, je me permets une petite sortie. Une petite sortie, puis s'il faut, je vais peut-être quelques bières, puis je me saoule. J'avais le goût de me saouler. Et ça, c'était avant de partir, tu sais. Là, j'ai fait mon show. Là, on jasait dehors à Source de la Martinière. Puis là, ben, les gars, ils voulaient absolument y aller, eux autres, au party. Puis moi, ça me tentait plus. Ça me tentait plus. J'avais juste le goût d'aller m'écraser dans la chambre d'hôtel. Fait que j'ai dit aux gars: ben, allez-y. Je leur ai donné l'endroit où ce que Mike était. J'ai dit: allez-y, puis moi, je m'en vais à la chambre d'hôtel. Je m'en vais manger mes chips, puis je m'en vais regarder la télé câblée. C'est la seule place que je peux voir de la télé câblée. C'est quand je me prends une chambre d'hôtel. je m'ennuie de la... Je me suis rendu compte, je m'ennuie de ça, de zapper. Zapper, tu payes sur un bouton, puis il y a quelque chose, tu sais, juste un bouton, puis tout de suite, il y a quelque chose qui apparaît, puis qui part. Puis, tu sais, de zapper, puis d'arriver dans le milieu d'une émission. Puis là, ben, je me suis écrasé dans la chambre d'hôtel, il était 11h30, je pense déjà, j'étais dans mon lit. Puis, je suis tombé sur Gold Rush. Je savais pas, mais ils en font encore. Hey, ça fait 8 ans que ça roule, ce show-là. Je sais pas si vous connaissez ce show-là. Il me semble qu'au début, j'espère que je me trompe pas, mais il me semble qu'au début, c'était des gars qui ne connaissaient rien au minage, tu sais. C'était des mineurs amateurs qui cherchaient, qui allaient à la conquête de l'or. Puis là, ben, ils allaient miner de l'or, tu sais. Puis c'était une gang de cabochons un peu, puis là, ben... tu sais, c'était des chauffeurs de pépines, puis tout ça, mais c'était des gars qui avaient jamais miné. Fait que on suit un peu leur aventure de cabochons, là, qui essayent de miner, puis c'est... Tu sais, évidemment, il y a mille affaires à penser quand tu veux faire du minage comme ça. Puis en même temps, ben, tu suis 3-4 équipes comme ça. Puis c'est fascinant. Moi, ça me fait capoter. C'est fascinant, ces histoires-là. Il arrive tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi de briser. Un moment donné, ils les envoient, je sais pas trop, je pense que c'est en Afrique du Sud. Ils s'en vont miner là. Puis ils sont pas capables de rien. Ils sont pas capables de rien miner. Puis ils sont ruinés, esti. Ils mettent tout leur argent là-dedans. Puis ils sont ruinés, ben. Ça donne des esti de bonne télé-réalité. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombé là-dessus. Puis là, je suis tombé là-dessus. Puis je suis resté accroché là-dessus. Fait que je me suis joué à la face. Puis j'ai mangé des chips. J'ai regardé Gold Rush. Win! Ouais. Fait que ça a été ça. Puis là, je suis revenu le lendemain. J'étais un peu... j'ai bien dormi, par exemple. J'ai bien dormi. Ça me prend vraiment un nouveau matelas. Ça n'a pas de bon sens. Mon esti de matelas d'étudiant. J'en appelle à Polysleep. Je vais envoyer ça dans l'univers, je pense. Un nouveau matelas. Un nouveau matelas, mais comment dire? Je veux pas payer pour. Ça me tente pas. Tu sais, je devrais, là, mais ça me tente pas. J'ai juste le goût de me le faire commanditer. J'ai le goût de me faire. J'ai le goût. Ouais, c'est ça. J'ai le goût qu'il app... J'ai le goût qu'il apparaisse dans ma chambre, mais j'ai pas le goût de payer pour. On en appelle à l'univers. Ah ouais. Je veux un nouveau matelas, ben bon, là. Hein? Non, mais pour vrai, ça se peut que je contacte Polysleep. Je vais essayer de me faire commanditer. Sinon, ben, je vais payer mon hostie de matelas, là. Chris de quêteux de tabarnak. Ah ouais, dans le Crusher, hostie Yann Terrio, Chris de quêteux. Ah. Hey, je suis content de faire ça aujourd'hui. Je suis comme de bonne humeur. Puis là, il y a le soleil qui veut sortir. J'ai le goût de bouger, j'ai le goût de faire des affaires, je suis comme dedans, là, je suis comme super motivé. On va aller voir dans le jukebox, on se fait-tu jouer une petite toune? Oh, est-ce que le monde nous a mis, là, nos cabochons, là, nos Olivier le Duc, puis tout ça. Ah, oh, qu'est-ce que... t'as peu, une demande de, tiens... Anne Berlin. Jérémy Dufault qui demande ça. On va voir si c'est bon. Anne Berlin. Ah, ça commence bien. C'est une demande de Jérémy Dufault. La tune s'appelle Impossible. C'est de Anne Berlin. C'est très British. Ça sonne British un peu. Ça sonne New Wave British un peu. Ça sonne 80s en tout cas.
Impossible.
C'est très bon. Je pensais que ça sonnait 80s au début, mais c'est plutôt un nouveau rock. Ça sonne DIY un peu. Merci, mon Jérémy Dufault, pour cette Anne Berlin. C'est-tu nouveau, cette bande-là? Ça a l'air, ça doit pas être super vieux. Anne Berlin. Chris, ils ont quand même pas mal d'albums. Il y en a un qui remonte à 2007. Latest album. Ouais, c'est ça, c'est autour de 2006, 2005, 2007. Il y en a. Ouais, il y en a en 2021, 2014. Best of Anne Berlin. Anne Berlin. Café Vrac. Qu'est-ce qui a retenu mon attention aujourd'hui? Il y a cette nouvelle-là. C'est un morceau de gâteau de noces de Diana aux enchères. À Londres, une tranche de l'un des 23 gâteaux de noces du prince Charles et de la princesse Diana. That went well. Hein? Est mise aux enchères 40 ans après le mariage qui avait capté l'attention du monde entier. La tranche avec glaçage provient de l'un des gâteaux de noces officiels du mariage le 29 juillet 1981 de l'héritier du trône britannique et de sa timide épouse de 20 ans. Il comporte une base en massepain avec sur le glaçage un blason royal coloré en sucre. Le morceau de gâteau avait été offert à Moira Smith, membre de la maison de la reine-mère à Clarence. Smith avait conservé le précieux morceau dans un moule de gâteau en métal. Elle avait protégé le glaçage avec une pellicule de plastique. Madame Smith avait... Moi, ce que je veux savoir, c'est que tu sais, t'es invité à un mariage. Pis t'es tellement groupie que tu gardes le gâteau. Tu sais, je vois quelqu'un, admettons, je vois un civil faire ça, quelqu'un du peuple, mais tu sais, quelqu'un qui est invité au mariage royal. Madame Smith avait apposé sur le couvercle une étiquette écrite à la main, manipulée avec soin, gâteau de noces du prince Charles et de la princesse Diana, qu'elle a signé et daté du 29 juillet 1981. Le jour même. La famille de Madame Smith a plus tard vendu le morceau de gâteau à un collectionneur en 2008 et il a été à nouveau mis aux enchères le 11 août dernier. Il devrait cette fois rapporter entre 300 et 500 livres, entre 520 et 870 canadiens environ. Non, d'après moi, il va se vendre. Il devrait le faire en NFT. Les Chris de NFT. C'est supposé être la grosse affaire, ça. Ah, ben voilà. Je sais pas si vous avez suivi The Crown, la dernière saison de The Crown. Ça tourne surtout autour de la princesse Diana. C'est plus à propos... C'est plus à propos de la reine Elizabeth. C'est vraiment à propos de la princesse Diana. Et c'est excellent. L'actrice, elle est vraiment bonne. On reconnaît la princesse Diana à travers... c'est ça. À travers son jeu d'acteur. C'est tellement bon, là. C'est tellement bon. Ça m'a fait... Quand j'ai parti... Moi, je suis fasciné par cette femme-là. Sa beauté, premièrement, là. Puis l'histoire, c'est vraiment... Chris, c'est vraiment une histoire... Une histoire incroyable. Tu sais, un mariage qui aurait jamais dû être lieu. Mais en même... Un mariage qui aurait jamais dû avoir lieu. En même temps, c'est elle qui représentait mieux la monarchie. Hein? Tu sais, quand on y pense... C'est tout des astis de trou de cul, là, tu sais, là. Lui, il l'a jamais aimé. Il voulait juste son ex. Il tripait juste sur son ex. Elle devait être cochonne parce qu'elle était laite en tabarnak. Elle est hideuse. Une autre affaire aussi qui a retenu mon attention, ça c'est ça, je trouve ça très malheureux. Je trouve ça très malheureux. Une tape sur les doigts de Stéphane Bureau. L'Ombudsman de Radio-Canada blâme Stéphane. On va aller lire le vrai. Parce que là, j'ai la version L'Ombudsman Stéphane Bureau. Parce que là, j'ai juste la version. J'ai juste la version de la clique du plateau. Là, c'est juste un screenshot. Stéphane Bureau, blâmé pour... Ouais. On va aller voir dans la presse. L'entrevue menée en mai dernier par le journaliste radio-canadien Stéphane Bureau... c'est-tu que j'haïs ça? Le petit pop-up dans la presse. Ouvre-toi un compte! C'est gratuit! Non, ça me tente pas! Ça me tente pas, les petits pop-up! L'entrevue menée en mai dernier par le journaliste radio-canadien Stéphane Bureau avec le controversé médecin français Didier Raoult durant l'émission Bien entendu a enfreint les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, a statué mercredi l'Ombudsman diffuseur public. L'animateur et son équipe n'ont pas procédé aux vérifications nécessaires et aurait pu mieux encadrer la présentation de l'entrevue. Notre Pierre Champoux, gardien de l'éthique du service de français de Radio-Canada, dans sa révision d'une plainte déposée juste après la diffusion de l'émission. Faut être coincé du cul en tabarnak pour faire une plainte à l'Ombudsman concernant Didier Raoult. Si t'as un petit peu de jugement, là, l'entrevue est super bonne, elle n'est pas complaisante pantoute. C'est une super bonne entrevue. C'est une entrevue qui était, je pense que c'est une entrevue qui était nécessaire. Ça montre une certaine ouverture d'esprit parce que on n'a vu qu'un côté de la médaille. Puis il a fait partie. Didier Raoult, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le croit ou qu'on le croit pas, je pense que c'est un monsieur très compétent. Mais c'est aussi un petit kid Kodak. Je ne sais pas si. Tu sais, je ne sais pas. L'hydroxychloroquine. J'ai aucune idée. Mais je trouve que il y a tellement. Lui-même, en tant que personne, a tellement été au centre de toute l'histoire de la COVID, ça vaut une entrevue à Radio-Canada. Ça vaut une entrevue à Radio-Canada. Tu sais, c'est quoi? Radio-Canada ne devrait pas se mêler de la narrative, ne devrait pas avoir de narrative en tant que telle, tu sais, là. Ça a été un acteur, c'est comme interviewer Alexis Cossette-Trudel, là, tu sais. Ça veut pas dire que tu vas convaincre tout le monde. Mais Chris, qu'on le déteste ou qu'on l'aime, c'est du monde qui ont fait partie de l'actualité. Tu sais? Fait que ça vaut une entrevue, je trouve. Ça vaut une entrevue, ça vaut un intérêt. Pis c'est pas nécessairement s'intéresser à leur message. C'est s'intéresser aux personnes, tu sais? Durant la quarantaine... De minutes qui a été consacré lors de l'émission D'ici Première, le 26 mai, le docteur Didier Raoult, médecin marseillais, spécialiste des maladies infectieuses, a pu exposer ses idées sur le traitement de la COVID-19 par l'hydroxychloroquine et sur la vaccination. Il a alors fait plusieurs déclarations erronées sans que l'animateur ne remette beaucoup en question ses propos. Or, il n'est pas interdit d'inviter un personnage controversé. Cela exige beaucoup de vigilance pour éviter que les thèses maintes fois réfutées obtiennent un nouvel élan frappé du sceau du diffuseur public. L'équipe de l'émission avait donc la responsabilité de s'assurer de l'exactitude des propos. Ben oui puis non, en même temps, Chris, tu sais pas ce qu'il va raconter. Tu peux pas tout le temps double vérifier, tu sais. Avait donc la responsabilité de s'assurer de l'exactitude des propos de l'invité et de rétablir les faits si nécessaire. C'est parce que ça aurait fallu... Ouais, je comprends ce qu'ils veulent dire un petit peu. Le problème, si je puis dire, ne réside pas tant dans les questions que l'animateur pose, mais dans celles qu'il ne pose pas pour recadrer et corriger certaines affirmations de son invité, lit-on dans une décision détaillée rendue publique mercredi. Mais en même temps, c'est une entrevue, c'est pas un reportage. Un reportage, il aurait pu diviser l'entrevue, puis à travers l'entrevue, remettre les pendules à l'heure. Mais là, c'était une entrevue, c'était juste une entrevue. C'était pas un reportage, tu sais. L'avantage du différé. Le docteur Didier Raoult, directeur de l'Institut, hospitalo-universitaire de Marseille, est une figure maintenant connue et particulièrement controversée depuis le début de la pandémie. Il est l'un des grands défenseurs du traitement de la COVID-19 en utilisant l'hydroxychloroquine, un médicament destiné à combattre le paludisme est jugé inefficace contre le virus de la pandémie actuelle par de nombreux experts. Ses travaux de recherche sont régulièrement conspués par la communauté scientifique, tandis que des négationnistes de la pandémie et d'autres complotistes adhèrent passionnément à sa cause. C'est ça qui est dangereux. Sans condamner les faits qu'on lui donne une tribune, l'Ombudsman de Radio-Canada blâme Stéphane Bureau et son équipe pour la façon dont l'entrevue a été menée et diffusée. À défaut de pouvoir rectifier les affirmations trompeuses du docteur Raoult sur le moment, l'équipe, de bien entendu, aurait pu remettre en perspective les informations propagées, croit l'Ombudsman. Je sais pas quoi en penser. Je suis pas capable de. Je vois pas nulle part dans l'article de quoi qui. Où est-ce qu'il y a eu faux, tu sais? C'est quoi qu'il y a eu faux? La plainte qui a mené à la décision qui a été déposée par la journaliste scientifique du magazine Québec Science, Martine Corniou. Juste après la diffusion, celle-ci soulevait notamment la complaisance de Stéphane Bureau et les différentes déclarations de l'invité. N'aurait simplement pas dû être invité. Dominique Réaume, premier chef de contenu de la chaîne responsable, a eu l'occasion de répondre à la plaignante. Elle a alors défendu la démarche de l'équipe et de l'animateur tout en offrant un mea culpa par rapport au manque de contrepartie plus vigoureuse à certaines affirmations. Mais c'est quoi les affirmations, tabarnak? Je veux le savoir, c'est quoi? On ne saura jamais. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit de faux, style docteur Raoult? Moi, je trouvais que, ne serait-ce que... Ben, je pense pas que c'était une entrevue qui se voulait scientifique. C'était une entrevue sur le personnage. Puis tu veux pas en même temps... Tu veux pas y faire un procès. Il a eu son procès. Tu veux juste t'intéresser au personnage. Tu sais? Mais en même temps, lui, il va arriver. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est que lui, il va arriver. Puis il va parler de lui, peut-être, probablement, mais il va surtout pousser sa narrative à lui. Tu sais? Fait que tout le monde a une narrative. Mais en même temps, c'est pas le rôle de Radio-Canada de pousser. De pousser leur narrative. Est-ce que... en tout cas, je sais pas. On dirait qu'il faudrait... Faudrait que je vois c'est quoi qu'il y a eu de faux. Faudrait que je cherche un petit peu plus. Que je fasse plus de recherches. Savoir c'est quoi qu'il a dit de faux. Le docteur Raoult. Je le sais qu'il a probablement dit des trucs... qui sont faux. Mais c'est quoi? C'est quoi qu'il a dit de faux, tu sais? Enfin, voilà. Mais je trouve ça triste. Je trouve ça triste que ce soit... Faut être ouvert d'esprit, c'est juste une entrevue, tu sais. C'est une entrevue. Je veux dire, il y en a en masse du monde qui ont menti devant des caméras, devant les journalistes, puis devant Stéphane Bureau, qui en ont compté de la bullshit. Il y en a en masse du monde qui ont menti à Radio-Canada, puis qui ont jamais été, disons, contre-vérifiés. Tu sais, je trouve ça un petit peu ridicule. Je trouvais que c'était une belle ouverture d'esprit de s'intéresser à Didier Raoult. On n'est pas obligé de la croire. On peut se faire nous-mêmes notre idée, là, tu sais, là. Enfin, bref. Puis, tu sais, toute l'histoire de l'hydroxychloroquine en même temps, tu sais, des études pour démentir, tu sais, il y a eu des études pour démentir qui étaient, en fin de compte, qui étaient complètement biaisées. Il avait suspendu, après ça, il s'était rectifié les espèces de... Tu sais, fait que ça a subi beaucoup de... Fait qu'on le sait pas plus, je pense, aujourd'hui, si c'est efficace ou c'est pas efficace. Ah! C'est mon avis. Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit un petit peu. Il a pas tué personne, là. Hein? Mais c'est un personnage important quand même dans l'histoire de... Je sais pas s'il va y avoir un documentaire. Un documentaire sur la COVID. Sur tout ça, là, tu sais. Un bon documentaire qui va nous éclairer, tu sais, qui va faire des vraies recherches. Qui va nous dire qui avait tort, qui avait raison. On va le savoir plus tard, en tout cas. La vérité va sortir plus tard. C'est tout le temps plus tard. Dans des reportages ou des documentaires que là, on apprend la vérité de comment toute la politique autour de ça. C'est pas évident. Mais c'est fini, là. C'est fini, cette affaire-là. Là. Arrêtez-moi ça, là. C'est fini, là, la COVID, là. N'a plus, là. Hein? Au diable, le masque. Gang de style collabo. Happy life with the machines scattered around.